Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Après le portrait du parc naturel régional d'Armorique au précédent numéro, on reste aujourd'hui dans le Finistère pour parler du parc naturel marin d'Iroise. C'est le premier parc naturel marin français. Il a été créé en 2007. Le siège du parc se trouve au Conquet, à l'endroit même où émettait le Conquet Radio, le centre radio maritime du Conquet. Ce qui caractérise ce parc, c'est son incroyable richesse environnementale. C'est l'un des plus grands champs d'algues en Europe, plus de 120 espèces de poissons différentes et la zone héberge également un quart des mammifères marins en France avec des colonies de phoques gris et de grands dauphins. On y retrouve également de nombreuses espèces d'oiseaux marins protégés. Le parc naturel marin d'Iroise a reçu de l'État de nombreuses missions de gestion, notamment la conservation et la valorisation du patrimoine maritime et sous-marin, la protection des espèces, le développement durable des activités touristiques et l'approfondissement et la diffusion de la connaissance des écosystèmes marins. À l'intérieur du parc, la réserve naturelle nationale d'Iroise, en plein cœur de l'archipel de Molène, qui comprend les îles de Banègue, Balanègue et Triélin. Et c'est dans cette réserve que nous emmène aujourd'hui Inès Florentin de Fréquence Mutine, votre radio associative à Brest et dans sa région.
Je m'appelle Armel Bonneron, je suis technicien de l'environnement, technicien supérieur et inspecteur de l'environnement, c'est-à-dire que j'ai des missions aussi de police pour faire respecter la réglementation. Le parc marin a été créé en 2007, c'est le premier parc marin qui a été créé en France. Il a une superficie importante puisqu'il s'étend du nord d'Ouessant jusqu'au sud de l'île de Sein et à 12 000 en fait, c'est-à-dire à 24 km à peu près des côtes à partir de Ouessant, jusqu'à la limite des eaux territoriales. Donc c'est une grande surface marine. Donc les trois missions principales du parc marin, enfin d'un parc marin, parce que ça c'est un peu général à tous les parcs marins, c'est vraiment la connaissance, la protection et les missions de développement durable. La connaissance accompagne forcément la protection puisqu'on ne peut pas protéger si on ne connaît pas. Donc ça c'est une mission importante. La protection, c'est tout ce qui est mission aussi de police, de sensibilisation, d'informer le grand public pour éviter en fait certaines erreurs ou dégradations du milieu naturel. Et le développement durable, c'est vraiment l'aide, en fait, aider aussi les gens à vivre mieux sur ces zones, mieux, c'est-à-dire en meilleure relation avec la nature, si on peut dire. Donc tout ce qui est exploitation, que ce soit la pêche professionnelle, mais aussi les activités de loisirs, touristiques. Du coup, on a un rôle extrêmement important pour essayer de valoriser ça, le rentabiliser, mais aussi faire en sorte que ce soit des activités durables et soutenables pour le milieu naturel.
Et celui-là, il vient d'où ?
Ça, c'est accroché à la...
Ça, on peut le marier.
On vient d'arriver sur l'île de Banègue. Banègue, c'est une île de l'archipel de Molène, située entre Molène et Ouessant. C'est une des îles les plus protégées de l'archipel de Molène, puisque le grand public n'y a pas accès, tout du moins sur la partie terrestre, puisque l'estran, y a des parties où on peut accéder. Donc c'est une île, c'est une sorte de petit bijou de nature préservé de l'action humaine. La réserve naturelle est intégrée, en termes de gestion, au parc marin. Au début, c'était une entité à part. Et la réserve naturelle donc, qui comporte toutes les petites îles et îlots en fait, de l'archipel de Molène, hormis quelques îles hein, comme Kemenes ou Molène. En fait, ces îles sont gérées par le parc marin, le parc naturel marin d'Iroise. Ces îles sont vraiment des richesses phénoménales, hein, notamment au niveau de la vie faune, enfin de tous les oiseaux qui nichent, notamment sur Banek où on se trouve, où des colonies d'oiseaux importantes et fragiles sont suivies de façon précise pour connaître l'évolution en fait, des populations, savoir si elles se portent bien ou pas bien, et dans ce cas, comment on peut faire pour y remédier. Faire du créage. Et au milieu, on a le Fromver, en fait, qui est un des courants les plus puissants d'Europe. Donc là, il est tout calme, mais il y a des jours où il est extrêmement, extrêmement énergique.
Le 25, il habite ici.
C'est sa maison, donc ils habitent dans des terriers.
Je m'appelle Bernard Cadiou, je suis ornithologue et je travaille pour l'association Bretagne Vivante.
Donc là, l'objectif, c'est de voir si le poussin du 25 est toujours là, ou s'il s'est envolé.
Il a sa taille adulte,
il est encore plein de duvet,
donc on va lui faire sa petite visite médicale, et après on le remettra dans son terrier.
Là, on entend le petit cri qui pousse, vas-y, dis bonjour.
Donc c'est un poussin d'Océanie de tempête, qui est le plus petit des oiseaux de mer d'Europe, puisqu'il pèse un peu moins de 30 grammes. Mais il passe sa vie en pleine mer, c'est-à-dire qu'il ne vient se poser à terre que pendant la saison de reproduction. Tout le reste de l'année, il vit essentiellement en haute mer. Et quand il vient à terre, c'est uniquement pendant la nuit.
Et là, du coup, tu vas procéder à son petit examen médical.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Alors déjà, premièrement, il a sa carte d'identité, puisqu'il a sa bague, sur laquelle il y a marqué Muséum Paris, avec un numéro unique. Et lui, il a la bague numéro SE41558. Il n'existe qu'un oiseau qui porte ce numéro-là. Voilà. Donc ça, c'est sa carte d'identité. Donc on lui mesure le tarse, pour savoir si la croissance est comme il faut. Tarse égale 22,8. Ensuite, on va lui mesurer la longueur de l'aile. AP égale 115. Ensuite, on prend une autre mesure sur la pointe de l'aile. EP2 égale I. AP2 égale 50. Et après, nous allons le peser. Il pèse 39 grammes. Et les poussins, ils sont nourris avec de la purée de poisson, donc c'est très gras. Et le poussin, à un moment donné, il est beaucoup plus lourd que ses parents. Ce qui va lui arriver, là, petit à petit, les parents vont moins venir le nourrir. Donc à un moment donné, il va maigrir. Et puis quand il aura trop faim, et ben, ça sera le grand jour pour, en pleine nuit, sortir de son terrier. Et puis partir à l'aventure.
115, il doit avoir 50.
Bretagne Vivante mène des suivis ornithologiques dans l'archipel de Molène depuis très longtemps. Et dans ce cadre-là, il y a suivi d'une espèce en particulier qui est l'Océanie de tempête, qui est assurée par Bretagne Vivante et par, en l'occurrence par moi-même. Donc on est sur l'île de Banek, qui est l'île la plus au nord de l'archipel de Molène. Et cette île-là, et puis les deux petits îlots satellites qui sont accolés à la grande île, hébergent des colonies d'Océanie de tempête. Il faut savoir qu'il y a à peu près un millier de couples d'Océanie de tempête dans l'archipel de Molène. C'est les plus grosses colonies françaises. Et il existe un suivi mené sur cette espèce depuis les années 70.
Okay.
Là, c'est effectivement calme. Tous les oiseaux marins et côtiers ont fini leur saison de reproduction. Donc c'est la période à laquelle ils ont déserté l'île. C'est pour ça qu'autour de nous, on n'entend pas un seul cri de goéland, alors qu'au printemps, c'est beaucoup plus animé. Mais les Océanies de tempête les plus tardifs, ben là, aujourd'hui, on a contrôlé les derniers poussins qui étaient encore dans l'autre pour vérifier s'ils étaient en bonne santé, si les derniers se sont envolés. C'est un suivi qu'on commence au mois de mai et qu'on finit après jusqu'à l'envol des derniers poussins.
Okay. Alors, tarse égale 19,0. AP égale 39.
Il a craché de l'huile. Ouais, c'est son réflexe de défense. Poids égale 22. Il est maigre. C'est 8,45 pour l'aile. Donc le cénit de tempête, c'est le plus petit des oiseaux marins d'Europe, puisque c'est un oiseau qui pèse un peu moins de 30 grammes, mais c'est un oiseau essentiellement marin, c'est-à-dire qu'il est présent à terre pendant la période de reproduction, et tout le reste de sa vie, il va la passer uniquement en mer, dans l'Atlantique.
Est-ce qu'il y a d'autres espèces que tu suis particulièrement pour Bretagne Vivante ou pour le parc naturel marin d'Iroise ?
Alors après, quand on est sur l'île pour le suivi de l'océanite, on fait le recensement des autres espèces qui sont présentes. Et après, moi, dans le cadre de mes activités, je vais aller aussi sur d'autres colonies pour d'autres espèces, comme les pingouins et les guillemots du Cap Fréhel, par exemple. Et donc, on peut manipuler les poussins sans que ça n'entraîne une désertion du nid. Alors que les petits oiseaux du jardin, eux, si tu vas déranger et prendre... poser ta main sur les oisillons, là tu as des fortes chances pour que le parent abandonne. Après, pour pouvoir les manipuler, j'ai une autorisation du muséum qui me permet de tripatouiller cette espèce et de la baguer. Voilà. Donc lui, on va lui poser sa bague, puisque j'avais attendu pour savoir s'il allait survivre. Donc lui, il s'appellera SE41566, qui est sa carte d'identité.
Hélène Maillot, conservatrice de la réserve naturelle nationale d'Iroise. La réserve naturelle et le parc naturel marin sont deux outils différents. Les réserves naturelles sont un outil de protection fort qui associe la préservation d'un espace et de richesses naturelles remarquables à une réglementation adaptée. C'est ça qui fait la différence entre réserve et parc, c'est que dans les réserves naturel, il y a un volet réglementaire. Alors, on vient de débarquer sur le rocher de Guiniman. Donc, on va voir si un phoque a mis bas sur ce rocher. En fait, on arrive là de mi-octobre à mi-décembre dans la période de mise bas des phoques gris. Sur cet îlot, il peut y avoir jusqu'à 3 naissances chaque année. Donc on a déjà eu un blanchon, une naissance dans le nord de l'archipel, là, sur l'île de Balanec, mais c'est vraiment le tout début. Donc on réalise des prospections à la recherche de blanchons tous les 15 jours, entre mi-octobre et mi-décembre. Donc il faut savoir que les blanchons sont sevrés au bout de 3 semaines seulement. Ils grossissent très vite et après ils partent en mer en toute autonomie. Le pas de temps de 15 jours, c'est pour estimer vraiment le nombre de naissances. À chaque fois, on essaye d'estimer l'âge du blanchon. De quelques jours, vraiment les tout nouveau-nés, jusqu'à une semaine, 2 semaines, 2-3 semaines. Et puis, 4 semaines, ils ont complètement mué et perdu tous leurs poils blancs. C'est comme ça qu'on réalise le suivi des naissances. En parallèle, on fait aussi des recensements mensuels des phoques adultes sur l'archipel de Molène. Les comptages mensuels, il y a un circuit en bateau qui est réalisé. Deux équipes en simultané comptent sur l'archipel. Une équipe sur le sud de l'archipel, une équipe sur le nord de l'archipel. Et en fait, on fait le tour à marée basse pendant les grandes marées des reposoirs. Donc, c'est les rochers qui émergent à marée basse sur lesquels les phoques se mettent à sec s'ils ont besoin dans leur cycle de vie. Donc pas de Blanchon aujourd'hui, c'est au Guineyman. On est un petit peu tôt, même si on a déjà eu une naissance sur Balanec, on est un petit peu tôt. Le pic des naissances est plutôt sur la première quinzaine de novembre, je dirais. L'archipel accueille une part importante des effectifs français de phoques gris, avec 200 à 300 phoques en période de mue, c'est-à-dire de janvier à mars, grosso modo, donc en période hivernale. Et l'archipel est le deuxième site de naissance en France, après l'archipel des Sept Îles. Donc on a entre 15 et 20 naissances par an.
Armel Bonneron, technicien supérieur et inspecteur de l'environnement.
Actuellement, au parc naturel marin d'Iroise, on est une équipe assez bien fournie, hein, puisqu'on est une trentaine de personnes en tout, une dizaine sur le terrain, un peu plus de 10 sur le terrain, en deux secteurs, Douarnenez et Le Conquet, et le reste est constitué de chargés de mission ou de personnel en contrat pour développer des projets européens ou des suivis qu'on fait, nous, à long terme, sur le parc. Sachant qu'on a quatre grosses thématiques, on a la pêche professionnelle, la qualité de l'eau, le patrimoine naturel et le patrimoine culturel avec la pédagogie. En fait, la personne qui gère le patrimoine culturel fait aussi tout ce qui est pédagogie et lien avec les activités de tourisme. Donc on a des moyens nautiques conséquents puisqu'on a deux navires par unité, donc une vedette et un semi-rigide. Si on se projette un peu alors au niveau des travaux qu'on mène sur le parc, donc c'est vraiment... Tout ce qui a trait en fait au milieu marin, hein, c'est normal. Donc aussi bien la qualité des eaux, hein, essayer de reconquérir vraiment une qualité des eaux acceptable, parce qu'on a quand même des soucis en fait de dégradation générale de la qualité des eaux. Et puis tout ce qui est patrimoine naturel, donc vraiment un suivi précis de toutes les espèces un peu qui vivent dans le parc, aussi bien les mammifères marins que les poissons, que les mollusques, crustacés, les algues. Voilà. Si on se projette un peu dans l'avenir, actuellement le parc est en train de réviser son plan de gestion. Donc le plan de gestion, c'est un document de travail en fait, qui permet au parc de se projeter sur 15 ans. Donc c'est un document qui est révisé tous les 15 ans. Et là, on arrive aux 15 années du premier plan de gestion. C'est, donc, le parc marin d'Iroise est le plus vieux, donc on sera les premiers à refaire notre plan de gestion. Donc 15 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé en Iroise ? Et se projeter dans 15 ans, dans le futur, qu'est-ce que sera l'Iroise dans 15 ans. C'est vrai qu'on a tendance à avoir une vision un peu fixiste en fait, de la nature. Souvent, on l'imagine un peu comme un musée avec des tableaux qu'on va essayer de conserver, qu'on va essayer de collectionner. Hein, c'est des sortes de collections. Alors qu'en réalité, la nature, elle est extrêmement mouvante, extrêmement dynamique. Hein, on voit bien les espèces, il y a des fois où il y en a beaucoup, puis après ça diminue. Elles sont remplacées par d'autres. On a eu l'histoire des poulpes qui sont arrivées en masse en fait, sur nos côtes. Et puis maintenant, ça a une sorte d'équilibre qui s'est instauré. Les pêcheurs ont trouvé aussi leur compte hein, dans l'exploitation des poulpes. Donc en fait, tout ça, c'est dynamique et on ne peut pas maintenir un système. Et là, on le voit bien, hein, malin celui qui pourra prédire dans 15 ans ce que ça sera. On sait très bien que là, avec le changement global, hein, le changement climatique, on arrive vraiment sur des épisodes qui vont avoir un impact phénoménal, ça il faut se le dire, hein, sur l'environnement, sur notre façon de vivre à nous, être humains, mais aussi sur tous les écosystèmes marins, terrestres et surtout marins. On sait par exemple qu'à 1 degré près de réchauffement de la température de la mer d'Iroise, on perdra par exemple tout le champ d'algues, des laminaires qui poussent en fait au fond des eaux. Ces grandes forêts de laminaires qui font un peu la richesse en fait, des eaux de l'Iroise, vont très certainement disparaître. On ne sait pas vraiment à quelle échéance, mais ça peut être très très rapide. Elles seront remplacées par autre chose, d'autres algues qui pousseront et il y aura d'autres communautés qui s'installeront. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. C'est qu'actuellement, le changement en cours, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ça sera compliqué de faire marche arrière, donc il faudra vraiment avoir une attitude en fait d'adaptation. Le parc marin, quand il a été créé, au début, a suscité beaucoup d'inquiétudes de la part des locaux, des gens qui habitaient dans la région, en se disant qu'ils auraient tout un tas d'interdictions, qu'ils ne pourraient plus pratiquer la mer comme ils la pratiquaient de façon ancestrale. Force est de constater que depuis que le parc s'est installé, en fait, c'est devenu presque un objet de fierté pour beaucoup, hein, d'avoir vraiment cette reconnaissance d'un parc marin en pointe bretonne, en pointe Finistère, qui reste quand même un milieu extraordinaire, où on a encore beaucoup de plaisir à y vivre.
Voilà pour ce portrait du parc naturel marin d'Iroise et de sa réserve naturelle. Portrait signé Inès Florentin de Fréquence Mutine à Brest. Alors quelques mots sur le fonctionnement de ce parc. Il faut savoir qu'il dépend depuis 2020 de l'Office français de la biodiversité, comme les 7 autres parcs naturels marins français. L'Office français de la biodiversité qui met à disposition de ces parcs les moyens humains, techniques et financiers pour fonctionner. Un conseil de gestion représente l'État, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les usagers de la zone. Le parc naturel marin d'Iroise est présidé par le président du conseil départemental du Finistère. Pour aller plus loin sur les nombreuses richesses, incroyables richesses, et sur le fonctionnement du parc naturel marin d'Iroise, eh bien direction le site internet parc-marin-iroise.fr. Retrouvez le magazine Biodiversité en air sur les radios associatives locales bretonnes de la Corlab, sur leur émanation régionale Radio Boa en DAB+, et puis également en podcast sur le site de la Corlab. À bientôt donc pour un nouveau numéro de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.